them a come and them a try flex. Really show them the rock a pound power. Watch them a twist. Sting like a scorpion, buzz like a knee.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission, la deuxième émission donc de la reprise de Idées Noires, donc de la coordination des groupes anarchistes, militants et militantes, évidemment, présents et présentes dans ce studio. À tout de suite. Et bien voilà, donc le générique étant terminé, rebonsoir à toutes et à tous. Idées Noires, donc qui démarre, 20h, voilà. L'émission de la coordination des groupes anarchistes, peut-être quelques annonces déjà. Hein.
Ouais,
bah, on peut y aller, commencer par l'ordre chronologique.
Voilà, donc ordre chronologique. Samedi 16, du coup, donc ce samedi là, dans 2, 3 jours, 4 jours, ouais. Je sais pas, 3 jours. Voilà, il y aura une manifestation dans Lyon. Pour le droit à l'IVG, donc le rendez-vous c'est à 14h30 devant le consulat d'Italie. Donc si vous voulez l'adresse, c'est 5 rue du Commandant Forax. C'est dans le 6e, donc vers les quais à Villeurbanne. Et je peux vous lire le petit tract d'appel. Alors pour le droit à l'avortement dans toute l'Europe, mobilisation partout en Europe autour du 28 septembre. Donc là du coup c'est le collectif de Lyon qui a fait un truc pour ce samedi-là. Il y aura aussi un autre rassemblement le 28, mais je vous en parlerai après. Donc voilà le petit appel. En solidarité avec l'ensemble des femmes européennes, après la lutte exemplaire des femmes espagnoles en 2014, polonaises en 2016, nous exigeons que les droits des femmes, la liberté à disposer de son corps, le droit à l'avortement et à la santé soient respectés dans tous les pays européens et inscrits comme droits fondamentaux pour l'égalité en Europe. Aujourd'hui, le droit à l'avortement au sein de l'Europe relève de la compétence de chaque État. Interdit à Malte, sous haute contrainte en Irlande, en Hongrie et en Pologne. Le droit à l'avortement, même légalisé, est peu ou peu, pourrait être remis en question par le maintien de la clause de conscience des médecins, comme en Italie, l'absence de structures hospitalières adéquates, Grèce et Bavière, les restrictions de personnel et les suppressions de centres pratiquant l'avortement lors des restructurations hospitalières, comme en France, et dans tous les pays par l'élection des gouvernements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades. Nous réaffirmons que l'accès à l'avortement est un droit. L'avortement est un choix personnel. Mon corps m'appartient, je choisis ma vie. Des moyens financiers doivent être donnés pour que les centres pratiquant l'avortement et les centres de planification soient accessibles à toutes sur les territoires. Des campagnes tout public sont nécessaires. L'éducation à la vie sexuelle doit être prodiguée à toutes et à tous pour qu'elles et ils puissent avoir des choix libres et éclairés. La formation aux techniques d'avortement et à l'accompagnement doit faire partie intégrante de la formation initiale des professionnels de santé. La clause de conscience des professionnels de santé doit être supprimée. Les délais légaux pour avorter doivent être harmonisés sur ceux des pays les plus progressistes en France et les États doivent dépénaliser totalement l'avortement. Nous appelons à la construction d'une mobilisation européenne autour du 28 septembre 2017, journée internationale du droit à l'avortement, où chaque pays inscrira ses revendications en vue d'une harmonisation européenne pour le respect des droits des femmes. Donc, voilà, donc du coup, il y aura deux rassemblements. On va faire un petit saut dans le temps parce que là, ça fait plus sens de vous annoncer les deux. Donc, il y aura ce samedi 16, ce sera un tour opérateur des consulats, c'est-à-dire qu'on va, défiler dans Lyon et passer devant plusieurs consulats. Alors, pas tous parce qu'il y en a beaucoup.
Mais du coup, les plus craignos, en tout cas, par rapport au droit à l'avortement.
Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, départ 14h30 au consulat d'Italie à Villeurbanne, sous forme de manifestation déambulation ponctuée de surprises. Donc, il y aura un peu des trucs de théâtre avec des comédiens, tout ça dans le cadre des journées du matrimoine. Et ensuite, ce sera le jeudi 28 septembre, donc dans deux semaines, je crois, une semaine, deux semaines, à 18h30, ce sera un rassemblement place de la Comédie. Donc là, du coup, ce sera pour marquer le jour d'appel à mobilisation européenne. Il y aura un truc à Bruxelles qui va se faire, il me semble.
Il y a une pétition dans toute l'Europe qui tourne, du coup, pour le droit à l'avortement.
Ouais, qui sera
et du coup, qui sera remise à Bruxelles par un européen et qui, du coup, qui permettra de faire le point avec tout ça. Donc, il y aura des petites mobilisations dans plusieurs pays et villes ce jour même, voilà, le 28.
Voilà, il devrait y avoir des délégations, normalement, de tous les collectifs, ASOS, ça, qui ont signé l'appel européen. Et normalement, ce sera en vue d'une plus grosse mobilisation en 2018. Voilà. Du coup, en septembre, tout ça, mais vraiment un gros truc avec... pour que ce soit vraiment, vraiment bien coordonné. Donc voilà.
Et du coup, juste pour rappeler, du coup, à l'initiative du coup, de ces deux actions, donc, il y a le collectif de sauvegarde de l'IVG de 69, du coup, dont la CGA fait partie depuis ses débuts et dans lequel on est investi. Du coup, on participe depuis peut-être 2-3 ans maintenant à toutes les actions et à tout ce qui se passe au niveau de ce collectif. Donc voilà, et on est signataire, bien évidemment, du coup, de tout ça. Donc voilà, donc c'est rendez-vous samedi après-midi. Et deux jours plus tard, donc le lundi 18 septembre, donc pareil, un appel à rassemblement. Donc ce coup-ci, c'est pour demander le respect des droits de l'homme et de la Convention de Genève en faveur des migrantes et des migrants. Donc c'est à l'appel du collectif Agir Migrants Lyon. Donc voilà, donc le collectif Agir Migrants Lyon, il est constitué environ de 120 personnes qui viennent en soutien aux environ 150 personnes en demande d'asile qui sont localisées sur l'esplanade Nelson Mandela, Lyon 3e. Si vous passez en tramway, la ligne T4, il me semble, voilà, entre la Part-Dieu et la manufacture des tabacs, donc vous avez sûrement vu des tentes installées là-bas, donc en plein cagnard pendant tout l'été sans eau, et donc là
juste à côté des archives municipales.
Voilà, juste à côté des archives municipales. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ces personnes sont en demande d'asile, donc ils sont en attente, et que du coup ils n'ont pas de logement, alors que ça devrait être le cas. Donc ils sont harcelés par la police tous les soirs et des violences policières. Donc voilà, quelques exemples, les personnes ont été contraintes de dormir assises ou debout, des papiers, des affaires personnelles ont été jetées à la déchetterie, des familles avec des enfants en bas âge et des femmes enceintes sont concernées, voilà.
Donc c'était la mairie qui avait coupé l'eau aussi volontairement.
Exactement.
Il y avait une fontaine sur la place et ça a été...
Plus les toilettes aussi qui avaient été fermées, et aussi, petite précision, s'il y a des personnes qui sont en demande de soins, on va dire de manière urgente, il y a des personnes qui sont médicalisées avec des fauteuils roulants et des handicaps assez lourds.
Voilà. Donc le collectif qui agit depuis plusieurs mois maintenant, donc en aide, voilà, donc au départ en aide sur l'aide urgente, hein, ça veut dire la nourriture, un peu d'aide administrative, du soutien, juste aller parler, voilà, pour un peu leur changer les idées. Et donc ils ont ensuite, okay, ils sont organisés, ils ont adressé une lettre ouverte le 29 août dernier, donc à Monsieur Collomb, ministre de l'Intérieur, qu'on ne salue pas, Monsieur Inglebert, donc préfet délégué pour l'égalité des chances, Monsieur Kimmelfeld, donc le président de la métropole et le nouveau maire de Lyon. Monsieur Kimmelfeld, donc président de la métropole, et Monsieur Kepenekian, maire de la ville de Lyon, et aussi Monsieur Philippe, qui est maire du 3e arrondissement de Lyon. Mais il n'y a forcément eu aucune réponse. Donc, il y a eu un premier rassemblement la semaine dernière, donc lundi 11, où il y a eu une centaine de personnes avec, a priori, sous 10 jours, un rendez-vous avec Monsieur Kimmelfeld, tout en sachant que 10 jours, c'est énorme pour les personnes qui vivent à la rue. Enfin, 10 jours, c'est trop long. Donc, en espérant que ce soit avant. Voilà, et grosso modo, le collectif rappelle que ces migrantes et migrants ont des droits. Il est de la responsabilité de l'État, de la métropole et de la ville de Lyon de veiller à ce que ces droits soient respectés. Et ils exigent la fin du harcèlement et des violences policières, des hébergements pour la durée des demandes d'asile, des réquisitions d'immeubles, des mises à disposition de bâtiments publics, l'ouverture de terrain, le versement de l'ADA dans les délais acceptables. Donc du coup, l'ADA, c'est l'aide en fait aux demandeurs d'asile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre demande est enregistrée, logiquement, vous avez directement droit du coup à une carte de retrait et à une somme donc, qui dépend en fait de votre situation familiale, notamment si vous avez des enfants, voilà, c'est un peu multiplié, même si la somme elle est assez minime par jour, hein, c'est quelques euros par jour, par personne. Et ben, le versement de l'ADA, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vos dossiers sont acceptés, des fois, il faut attendre 4 mois voilà, avant de la toucher.
C'est le cas de beaucoup de personnes sur le camp.
Justement. Énorme. Et ils veulent, exigent aussi l'ouverture quotidienne des restaurants sociaux aux personnes en attente de rendez-vous à la préfecture, des points d'eau et d'assainissement, ça semble le minimum déjà, et des actions de scolarisation pour les enfants. Et ils demandent aussi, mais là, ça va être très compliqué, mais il faut aussi le faire, que l'Albanie ne soit plus considérée comme un pays sûr. Donc là, parce que c'est beaucoup d'Albanais sur ce camp-là, mais il faut savoir qu'il y a énormément de pays qui sont considérés par l'Union européenne et par la France comme des pays sûrs, tout en sachant qu'en renvoyant les personnes là-bas, ils sont en danger grave. Donc voilà, donc il y a un deuxième rassemblement qui est posé donc lundi prochain, lundi 18, à 19h, en espérant que voilà, d'une centaine, on passe à 200 ou à 300 pour que la pression puisse être mise un petit peu plus sur la métropole et la ville de Lyon.
Est-ce que tu peux nous donner l'heure et l'endroit
ouais,
pardon, exact
ouais, désolé, ouais.
Parce que
un peu brouillon là-dessus. Donc
c'est pas grave.
Lundi, donc 18 à 19h. Et c'est devant la métropole, donc c'est rue du Lac, 20 rue du Lac, devant la métropole. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une réunion du coup des élus de la métropole ce soir-là, à cette heure-là. Donc c'est aussi pour les interpeller là-dessus. Donc voilà, pour les deux principales annonces, je pense que c'était à peu près tout.
Ouais,
il me semble, moi j'avais vu à peu près ça. Hein.
On peut faire un petit rappel du coup pour la journée de manif qui a déjà été posée la semaine prochaine, donc le jeudi 21. Il y a aussi un appel à la grève.
Ouais.
En général, je ne sais pas trop, mais.
Bah alors, du coup, pour l'instant, du coup, on vous rappelle la semaine dernière, donc l'émission en podcast, on avait fait un gros point quand même sur les ordonnances là au Macron. Le document qui avait été présenté à la radio, du coup, enfin expliqué, du coup, il est disponible sur notre site cgalyon.ouvaton.org avec l'appel de la manif d'hier. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça. Il y aura sûrement d'autres documents qui sortiront un peu plus explicatifs aussi, parce que petit à petit, voilà, on décrypte en profondeur ces fameuses ordonnances. Puis après, je sais pas, oui, on peut faire un point maintenant du coup sur ce qui s'est passé hier, avant la petite pause musicale.
Ouais, ouais.
Bah, du coup, voilà, bah, vous êtes sûrement au courant. Donc hier a été appelé donc principalement par la CGT, alors sur Lyon, avec Solidaire, avec la FSU et la CNT sur Lyon, donc une petite intersyndicale par rapport à l'année dernière.
Je crois qu'il y avait même la CNTS aussi.
La CNTS aussi, ouais, pardon, effectivement. Du coup, vous savez aussi que FO au niveau national n'avait pas souhaité suivre l'appel à la manif, mais on avait parlé la semaine dernière, mais ça s'est vérifié. Il y a la moitié des unions départementales FO qui ont appelé à la manifestation et des grosses fédérations, dont le transport.
Bisous, Maï.
Voilà, donc ça va peut-être vider un petit peu les adhérents de FO, pourquoi pas, voilà, sur des syndicats comme ça qui collaborent avec le gouvernement. Donc, grosso modo, globalement, alors, au niveau du nombre de personnes mobilisées en France et à Lyon, c'était plutôt une réussite parce qu'on a à peu près sur les chiffres, voire un peu plus que la première mobilisation contre la loi El Khomri l'année dernière. Donc la CGT annonce 400 000 personnes sur cette première mobilisation en France. Sur Lyon a été annoncé à peu près 10 000 personnes.
Entre 10 000 et 15 000. Ouais.
Voilà, tout en sachant que la mobilisation était très perturbée par les forces de l'ordre. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en amont, c'est que du coup sur Lyon, la CGT a fait le boulot pendant tout l'été, à savoir qu'il y a environ 80 000 tracts qui ont été distribués. Grosso modo sur l'appel. Après derrière a été suivi parce qu'il y avait une bonne présence aussi de Solidaire, et des fois un peu plus que l'année dernière, même j'ai trouvé par rapport au cortège. Donc ce qui est plutôt encourageant pour la suite, ça veut dire qu'il y a au moins ces deux syndicats-là qui vont être mobilisés jusqu'au bout. Et voilà, ça fait déjà une petite force sur laquelle s'appuyer. Après avec des syndicats avec un peu moins de force, CNT et CNTSO, mais on peut aussi compter sur eux et elles pour être là, et on espère qu'après les autres fédérations qui ne suivront pas les ordres de leur confédération et qui pourront du coup venir aussi en masse.
Même vu la CFDT.
On a même vu voilà quelques personnes de la CFDT effectivement qui étaient là.
C'est aussi un drapeau.
Donc c'est voilà des gens qui désobéissent entre guillemets aux ordres de leur bureaucratie, mais c'est plutôt bien vu ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire de fermer les yeux sur ce loi-là qui est quand même immonde. Voilà, et Lyon était quand même un gros cas particulier hier, mais un peu comme d'habitude, j'ai l'impression, surtout que là on le savait déjà l'année dernière, il y avait quand même des grosses répressions sur toutes les manifestations. On savait que hier avec la nomination de Gérard Collomb ministre de l'Intérieur, ne voudrait sûrement pas qu'à Lyon il se passe des choses, des débordements, parce que forcément ça lui retomberait un peu dessus. Donc la tactique a été la suivante pour les forces de police, ça a été très rapide, hein. Donc il y a eu fouille systématique à l'entrée de la manif, donc un peu les flics avaient encerclé vraiment tout le contour de la manif, hein. Donc du coup donc la manif partait de cour Albert Thomas, ensuite cour Gambetta, mais sur toutes les rues adjacentes, où que vous arriviez, que ce soit métro Sans Souci, métro Garibaldi, par les rues perpendiculaires, il y avait des flics de partout, et les fouilles étaient systématiques, donc fouilles de sacs, confiscation du matériel médical, donc sérum filles, etc.
Je pense que c'était pas mal fouiller à la tête, parce que moi je me suis pas fait fouiller.
Systématiquement, avec les camarades de la CGT, je me suis pas fait fouiller.
Bizarre, ouais. du coup, en tout cas, il ciblait un petit peu forcément, à mon avis, et donc ce qui s'est passé, donc il y a eu un cortège de tête, comme l'année dernière sur les autres manifs, et donc à peine 100 mètres avaient été faits, que les flics ont réussi à scinder une partie de ce cortège de tête déjà, et à bloquer le reste de la manif. Donc on s'est retrouvé avec un groupe de personnes isolées, un barrage de flics, le reste du cortège de tête et ensuite du coup la première partie du cortège intersyndical qui est arrivé. Donc les flics ont bloqué tout ça, impossibilité d'avancer. Il y a eu tentative de libérer de la NAS les personnes qui étaient isolées. Dans ce cas-là, les flics ont fait leur boulot habituel, à savoir gazage, matraquage. Et ils ont réussi, pendant ce petit moment de flottement, à isoler un peu plus de personnes et à les orienter, ce qui était prévu au niveau départ, parce qu'il y avait un gros dispositif policier au niveau de la rue Pierre-Robin, donc une rue perpendiculaire au cours Gambetta. Donc, comme on dit, c'était prévu de nasser le maximum de monde dans cette rue-là pour essayer de mettre pression et de faire exploser la manif. Donc, du coup, il y a eu une grosse attente, ce qui est assez inhabituel, parce que la manif a failli ne pas avoir lieu, ne jamais démarrer. Il y a énormément de monde qui sont partis, qui n'ont même pas pu pouvoir marcher, parce que la manif est partie à 14h, 14h30, alors qu'elle a été prévue à 11h30. Oui, donc, il y a eu 2 heures de blocage avec, du coup, des personnes, une centaine de personnes à peu près,
150 environ.
Ouais, 150 personnes nassées, donc rue Pierre-Robin, avec du coup à un moment donné une mésentente, mais après ça s'est plutôt arrangé puisqu'il y a eu plutôt un travail solidaire de fait avec les syndicats et du coup les personnes qui étaient du coup nassées, puisqu'il y a eu une négociation directe du SO des syndicats avec la préfecture hein, pour demander une libération du cortège. Autrement, du coup, le reste du cortège n'avancerait pas. Donc ça s'est négocié pendant 2 heures et ça s'est plutôt bien passé, même s'il n'y a pas eu de contrôle d'identité et de fouilles systématiques. Il y a quand même eu du coup un fichage de faits,
si les fouilles systématiques,
de sacs, pour vérifier le matos, je suppose. Voilà,
nos sacs vidés par terre et fouillés intégralement.
D'accord. Tous. Et du coup, apparemment pas contrôle d'identité, mais quand même du coup, filmé de près, en tout cas pour faire un bon petit fichier. Donc voilà, donc ça a été quand même assez inédit, parce que bon, on a déjà eu des cas d'intervention policière sur le cortège de tête ou ailleurs avec des grosses pressions, mais jamais comme ça de blocage de manif, parce que du coup très clairement ils bloquaient le reste du cortège, hein, c'était pas possible d'avancer. Donc voilà. Après du coup il y a eu quand même un peu d'agitation du coup durant cette NAS, parce qu'à un moment donné le SO de la CGT a voulu, à juste titre ou pas, ça reste à interprétation de chacun et de chacune, faire avancer une partie du cortège, parce que les gens commençaient à s'impatienter derrière. Enfin, il y a quand même 10 000 personnes a priori, donc voilà, quand on reste bloqué une heure et demie, enfin, les gens qui avaient débrayé 2 ou 3 heures pour se mettre en grève et pouvoir manifester, ça commençait un petit peu à grogner aussi de l'autre côté.
Sachant que c'était aussi entre midi et 2 et que c'était assez stratégique pour plein de gens qui te permettaient
de venir du coup sur un temps de pause, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas. Ouais. Donc c'était assez problématique parce que du coup ça s'est quand même assez tendu. Tout en sachant quand même à rappeler que du coup tout l'été les syndicats concernés ont bossé du coup pour construire cette grève là donc c'est quand même un boulot de fond, de fou, que les personnes syndiquées ou pas dans leur boîte ont fait le boulot pour essayer de mobiliser leurs collègues et ça avait plutôt bien marché, et que cette manifestation devait servir à créer une dynamique pour lancer pourquoi pas un mouvement qui ait plus de monde à la prochaine date et qui ait plus de secteurs qui se mobilisent. Donc ça va peut-être être le cas, parce que la prochaine date est posée, c'est le 21 septembre. Il n'y a pas encore l'heure et le lieu et le trajet, mais ça va venir demain il me semble. Et peut-être rappeler aussi que le réel objectif, en tout cas pour les syndicats de la manifestation, c'est vraiment de développer la grève, c'est-à-dire que inciter les gens, montrer qu'il y a une dynamique collective, donner du courage aux gens qui ont peut-être hésité ce coup-ci à faire grève en pensant qu'il y aurait personne, etc. Et c'est vraiment l'objectif réel. Donc c'est pas de faire c'était clair qu'après ce manif là ils n'allaient pas abandonner leur projet, hein, soit les ordonnances et la loi travail, mais c'est vraiment du coup vraiment de développer ça pour essayer d'amplifier le mouvement et d'essayer de multiplier après les échéances. Le but aussi, essayer, alors ça a plus ou moins réussi avec la solidarité qui s'est mise en place avec les gens nassés, mais c'était de ne pas tomber dans la manœuvre de la police, à savoir diviser les gens qui étaient dans
les
la manif.
Les bons manifestants, les mauvais manifestants.
Donc voilà, puis créer des tensions entre... on le sait, de toute manière, il y a des gens syndiqués, tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe devant, et des personnes qui sont à l'intérieur, donc pour certains, ce ne sont que, entre guillemets, des anarchistes qui veulent casser, et pour d'autres, du coup, les syndicalistes, ce sont que des sociotraîtres aussi, donc il y a cette friction qui est, du coup, à essayer d'atténuer le plus possible pour que le mouvement puisse continuer, et avoir de l'ampleur. Par contre, oui, comme ça, un peu brassé, un petit peu quand même, au moment où la CGT a voulu avancer un petit peu, notamment avec une partie du cortège de tête, qui sont très clairement antisyndicalistes aussi, hein, une petite parcelle autonome qui a bloqué le camion de la CGT. Je ne sais pas comment ça va se passer la prochaine fois. Il y a le communiqué de la CGT de l'UD qui est plutôt clean, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas il n'y a pas le mot casseur, il n'y a pas de responsabilité posée sur le cortège de tête, il y a toujours une volonté de travailler en solidarité. L'AG de lutte qui avait lieu hier a pondu aussi un communiqué, alors en s'en prenant un peu quand même au SO de la CGT, en les différenciant SO de la CGT, l'UD et les autres syndicalistes. On a vu qu'il y a peut-être une erreur stratégique pour la suite.
La différence qu'ils faisaient, c'était plus entre syndicalistes de base et
l'UD, voilà.
Et voilà, c'est toujours le truc de l'UD, c'est les méchants et la base, c'est les gentils, quoi.
Ouais, donc on verra, parce que du coup, ils veulent une rencontre du coup avec la CGT, mais du coup, on va voir après certaines attaques, on va voir comment ça peut se passer. Et donc voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Nous, voilà, on a été mobilisés là-dedans. On n'est pas forcément de cortège fixe, mais voilà, on était présent du coup en fin de tête de cortège. Et donc voilà, en tout cas, on a été témoin de ce qui s'est passé. En tout cas, la violence policière que personne ne peut nier. Voilà, en tout cas, et que la tactique vraiment là pour casser la dynamique et essayer de diviser les manifestants entre eux et essayer que la manif n'ait pas lieu du tout, ou alors part en vrille totale et que du coup ils puissent faire les titres des journaux en disant voilà, on vous l'avait bien dit, ces gens sont dangereux.
Ouais,
tu peux rajouter encore des choses.
Ouais, voilà, moi je fais partie des gens qui ont été nassés du coup à cette manifestation, et du coup, il n'y a pas besoin de réexpliquer comment c'est arrivé, on s'est fait avoir par surprise. Il s'était absolument rien passé.
Je vais peut-être quand même rappeler vite fait les conditions, parce que quand même, rester 2 heures debout en plein soleil.
Pour rappeler les conditions, c'est que déjà, ce cortège de tête, c'était même pas vraiment formé, c'était pas quelque chose, c'était. Moi, perso, j'étais allé dire bonjour à des amis, il y a des gens qui passaient, des voisins, des syndicalistes qui allaient dans le cortège syndical, qui se sont retrouvés fermés d'un seul coup par une trentaine, quarantaine de policiers d'un côté. Deux camions et une armée de GM de l'autre côté, et la BAC cachée dans la rue d'à côté. Donc on était vraiment encerclés. Il y avait franchement plus de flics que nous. On s'est retrouvés vraiment. On s'attendait pas à ça. On n'avait rien demandé. On chantait. On commençait à chanter, même pas en fait. Et on s'est retrouvés encerclés, à se faire taper dessus. Du coup, on s'est fait rabattre dans la rue. Et en fait, on a vu la BAC au bout. On s'est dit, ils vont nous caler là. Et en fait, ils nous ont serré. Et on s'est retrouvé en fait la moitié en plein cagnard, avec serré entre on avait peut-être 7 mètres, 8 mètres de large entre les deux cotons de flics. On était environ 150 sur la largeur de la rue, sachant qu'il y avait des voitures, il y avait
Jaguar.
C'était de l'autre côté, mais et on était tous serrés, on avait plus d'eau d'ailleurs je sais pas s'ils nous écoutent, ce serait
le voisin, ou le
sympa, mais les voisins, on a eu un voisin qui nous a acheté une bouteille d'eau par la fenêtre parce qu'on lui réclamait de l'eau, et une voisine qui a ouvert sa fenêtre et qui nous a rempli toutes nos bouteilles d'eau une par une. Donc il y a eu une solidarité superbe. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des gens qui étaient nassés, beaucoup de gens étaient anti-syndicalistes, et vraiment, il y a eu une admiration. Pour la CGT et les syndicats qui sont venus, qui n'ont pas laissé tomber tous les gens qui étaient nassés, qui nous ont pas laissé tomber, alors que nous on était en train de crever de chaud, on voyait en face tout le monde. Il y a une partie une toute petite partie qui a avancé, mais le reste est resté vraiment. Quand on est sorti, on s'est tous fait contrôler intégralement, mais il y avait des représentants de la CGT qui surveillaient qu'on se fasse pas contrôler nos papiers. Et franchement, en vrai, sans eux, je pense qu'on aurait été pas mal à finir en garde à vue.
C'est plus compliqué, surtout qu'apparemment, il y avait un petit groupe de fachos qui traînaient de l'autre côté, du côté des flics.
On les a vus aussi.
Effectivement, si vous étiez libéré de l'autre côté, il y a quand même un petit risque aussi. On sait que du coup, qu'il y a collaboration quand même, ce genre de truc, flics-fachos, et que ça aurait pu engendrer d'autres choses encore derrière. Quoi.
Voilà, et il faut savoir qu'aussi, quand on était dans la NAS, on était très calme. Au bout de 10-15 minutes, plus personne, même masqué. C'était vraiment calme à se demander ce qu'on foutait là. Et ils nous ont quand même mis deux fourgons cellulaires ouverts face à nous, juste derrière la BAC. Donc les fourgons, ils étaient à 2 mètres de nous. Mm-hmm. Et on a vu trois copains et copines faire embarquer, dont deux qui ont été relâchés et une personne du coup qui a été embarquée. Et en fait, ils nous ont vraiment foutu la pression, et ils attendaient, mais on était vraiment très calme.
Donc ça
on chantait,
un peu en vrille, hein,
on s'amusait plus à faire des chants réponse, un peu comme dans les bus en vacances scolaires, avec la manif et nous qui étions nassés. Franchement, ça a été, c'était assez dur, et on a été très surpris.
Bon, ben voilà, du coup, vu que l'heure tourne, on va peut-être penser à conclure. Et moi, je dirais pour la fin qu'il y a vraiment une solidarité à ne surtout pas perdre, parce que ça fait quand même des mois et des mois que le gouvernement de Macron, enfin le gouvernement, que, en tout cas la campagne de Macron, même avant qu'il soit élu, c'était quand même bien clair et net que ce serait de mater tous les mouvements sociaux suite aux ordonnances qu'il allait faire passer pendant l'été. Enfin, c'était prévu depuis le début, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas perdre face par rapport à ça, que ce soit à Lyon, dans n'importe quelle ville, dans toute la France, dans les boîtes, les syndicats, partout. Il faut vraiment tenir et puis relancer
à mobiliser,
ça,
ouais, pour le 21. Puis,
parce que ça ne va pas être facile. Et voilà.
Ouais, et puis ça envoie, je pense, un message assez clair à la préfecture de si vous voulez diviser, bah, ce ne sera pas comme ça que vous le ferez. Quoi.
Oui, mais c'est vraiment la tactique du gouvernement et de toute la police de diviser les gens. Donc c'est vraiment la solidarité est notre priorité, je pense.
En espérant qu'aussi, voilà, ça puisse aussi tilter un petit peu sur l'auto-organisation de chaque cortège et nous aussi sur l'autoprotection, parce que du coup les flics en profiteront à chaque fois qu'il y aura une petite brèche, et donc voilà, il faudra faire gaffe à tout ça. Donc voilà, petite pause musicale du coup pour...
En effet, j'ai préparé un petit truc très court, hein, 2 minutes, c'est les hurlements de Léo avec la gare de Caen. Écoutons. Allez, c'est parti.
Et ben on reprend avec toujours la même émission qui est Idées Noires, émission de la coordination des groupes anarchistes sur le 102.2 de Radio Canaille. Et on reprend avec la première page de lutte sociale.
Allez, une lutte sociale pour imaginer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. C'était pendant le mois d'août, hein, en fait, je rattrape un peu le temps perdu. Enfin,
oui, t'as fait juillet la semaine dernière.
J'ai fait juillet la semaine dernière, donc normal, je reprends sur le mois d'août. Donc avec une grève que je dirais bien annoncée, si on peut dire, en fait, puisque c'est chez Aigle Azur. Alors qu'est-ce que Aigle Azur? Bah, c'est une compagnie aérienne low cost qui a été quand même créée en 1946. C'était une grève annoncée du 1er août au 31 octobre. C'est le SNPNC, c'est-à-dire le Syndicat National des Personnels Navigants Commercial, donc qui s'y est posé. C'est une branche du syndicat FO. Hein, on a entendu beaucoup parler de FO ces derniers temps. Là, je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Bizarre, oui, mais enfin bon, bref. Selon les hôtesses, les stewards, pour leurs conditions de vol, en fait, de travail, bien sûr, c'est leur boulot, les salaires, et ça concerne aussi, bien sûr, le national. Voilà, c'était au niveau donc national. À Entrevaux, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, avec un EHPAD en effervescence, celui de l'hôpital de la ville, donc d'Entrevaux, pour une grève illimitée. C'était le le 3 août, c'est la CGT qui pilote la grève, qui dénonce un manque d'effectifs criant, le management pas à la hauteur. Et tout ça, ça fait du personnel qui souffre, qui exige la réglementation du temps de travail, les remplacements selon les congés, les maladies, etc. Le maintien des lits et activités et respect des délégués du personnel. Tout ça. Donc, on appelle ça les délégués du personnel, les instances représentatives, pour parler proprement. Donc, c'est une formule, tout bonnement. Les résidents et résidentes ne sont plus accueillis comme il se doit. Sachant que ce sont des personnes dépendantes dans ces EHPAD. Temps de repos des personnels également donc, sur la table. La CGT a décidé donc, d'envoyer courrier à l'ARS du coin, aux sénateurs, aux députés, aux élus départementaux. Je leur créerai bonne chance. Mais aussi à organiser quand même une manifestation forte de 50 personnes. Il y a eu le même motif et la même punition pour la direction de l'EHPAD de Seine-les-Alpes pour un préavis de grève au 31 août, même revendication que ci-dessus. Ensuite, on va passer dans les îles, puisque c'était les vacances au mois d'août, avec la réunion où on peut signaler, où je signale une grève qui a finalement, au bout du compte, abouti en faveur donc, des salariés. Ce n'est pas si commun, mais il y en a quand même, ça arrive. Comme exemple, la Société d'économie mixte Réunion Recyclage Environnement, suite à un mouvement de grève à la mi-juillet pour les salaires et primes diverses. 100% de participation, ça pèse son poids dans ces cas-là. D'autant que la direction s'était un tantinet moquée des délégués syndicaux dans les négociations, les fameuses NAO. La sentence est tombée, 48 heures de grève, et au bout du compte, 55 euros de mieux sur les salaires, 800 à 1200 euros pour la prime exceptionnelle annuelle. On reviendra sur les îles après. On y est sur les îles puisque ça fait partie de la Corse. Donc, je parle là de l'amiante. Enfin, encore, qui fait encore parler d'elle, toujours. Et savez-vous, et je vous l'annonce quand même, ça, c'est ma fierté, que le plus important gisement en France d'amiante se trouve à Canaries, en Haute-Corse. 300 salariés à l'époque, puisque celle-ci a fermé en 1965, le site a fermé en 1965, c'était Eternit, exploitant et exploiteur, et dans des conditions proches du désastre pour les mineurs depuis 1948. Situation de désastre aussi pour l'environnement, 300 000 tonnes d'amiante en 1961, pour citer les chiffres, étaient produites par ce site. La découverte date donc de 1898 pour ce site, donc ça date pas d'hier quand même l'amiante. Les déchets, pas de problème, ils étaient rejetés tout bonnement à la mer. Pas de problème non plus pour Eternit qui a refilé finalement la patate chaude à la collectivité. L'usine, le site pour un franc symbolique. Ainsi, la collectivité territoriale de Corse depuis 1973 se tape évidemment le désamiantage car le site est repris à l'inventaire du patrimoine culturel de Corse. C'est une mine à ciel ouvert pour préciser la chose. La roche amiantée se déverse dans la mer qui rejette la saloperie sur les plages. En 2009, le chantier de réhabilitation a finalement été stoppé après un an de travail pour cause de sécurité. Alors, pour vous préciser, pour y accéder à ce chantier, il fallait se munir de masques et de combinaisons très adaptées. Alors, pas grand-chose malgré tout sur les victimes du patronat, évidemment, des ouvriers, en l'occurrence, de l'amiante, ni sur les luttes des habitants et habitantes. Par contre, il y a une association environnementale qui a été créée la loi de 1901, qui a été créée donc en 1986, qui s'appelle U-Levante, finalement alertée par la population. Elle est soi-disant une association indépendante de tout pouvoir et procède donc à des actions en justice, pas seulement sur ce cas d'amiante, mais aussi sur les constructions illégales, etc., etc. Toujours dans les îles, donc à Fort-de-France et en Martinique, avec une grève des avitailleurs. Alors, les avitailleurs, je vais déjà expliquer ce que c'était, ce sont des personnels en charge de remplir les réservoirs des gros navires. Et c'était le 7 août, avec des perturbations qui vont sans dire, si bien que les compagnies aériennes donc de transport de passagers sont allées voir ailleurs, c'est-à-dire en Guadeloupe, en Barbade, ce qui n'a pas empêché évidemment la lutte d'exister, des conditions de travail, et bien sûr ici encore, acquis sociaux et des embauches. Voilà ce qu'on défend donc en Martinique. Finalement, ils ont réussi à avoir deux personnes de mieux pour cette plateforme, qui est un groupement pétrolier sur l'aéroport. Alors, convergence des luttes, eh bien, en Guadeloupe, où les soucis existent aussi de la même manière, eh bien, il y a eu quand même des débrayages le 11 août, et avec une forte, évidemment, à cette époque, activité, une influence, je dirais, par cause de vacances, d'où les compagnies devaient se réapprovisionner le plus rapidement possible. Donc, de Martinique, on passera à Mayotte. C'est dans la même veine, en fait, hein, cette veine capitaliste où coule l'or noir. Le dépôt pétrolier Total qui a été bloqué, c'était le 14 août, avec les stations de distribution d'essence étaient vidées. Donc, le trafic routier perturbé, mais réunion annulée aussi. C'est EFO également là, qui drivait, si j'ose dire, et qui a lancé la lutte avec la CFDT. Alors, au menu, sont les salaires, les conditions de travail. Puis, la CFDT a quitté la grève, on ne sait pas trop pourquoi. La CGT a rejoint donc le syndicat SMSPP, qui est une branche de EFO, dans la logistique et la gestion des dépôts Total, donc sur l'île. Difficulté d'entente avec la direction, il y a eu un piquet de grève qui a été mis en place, enfin des piquets de grève, des blocages. Il y a eu également une visite du directeur venu faire la morale. Donc c'était, en fait, ça tournait à des coups d'épée dans le mazout. Les grévistes ont reçu le soutien chaleureux, je dirais, de la fédération, donc EFO, désolé, hein, mais c'était ça, hein, c'est ainsi. Hein. EFO Énergie de Métropole. Une avancée de poids, cependant, puisque la direction de Total a proposé, et vous allez rigoler peut-être, hein, a proposé une remise sur le prix de la bouteille de gaz pour les employés, donc sans en préciser le montant. Oh. Total à Mayotte, eh ben c'est un monopole, hein, et le directeur s'est offusqué de cette grève menée par un petit syndicat non majoritaire.
Il parle de EFO, là ?
Il parle de EFO, pourtant, parce que c'est
eux qui me...
Et puis ensuite, eh ben, on va retourner en métropole, donc avec Clermont-Ferrand, avec un squat, le squat de Monange. C'est un groupe scolaire qui était complètement vide, qui a été occupé par une trentaine de personnes. Une médiation judiciaire y a mis fin, puisque c'était marqué « Game over » qui était écrit sur la porte de l'État nommé pour la circonstance Université Populaire et Polyglotte. Ce squat avait été ouvert en 2016, 4000 mètres carrés quand même à investir, dont la propriété est à la prévoyance immobilière et qui a mis finalement au bout du compte les hauts là. Le squat a accueilli jusqu'à 250 personnes en turnover, ouvert par des, je cite, hein, par des citoyens ordinaires pour faire face aux problèmes de logement pour les jeunes mineurs isolés, avec l'aide également, il faut le noter, de RESF et de la CIMAD. Cet établissement, enfin ce squat, était aussi pour les refoulés du 115. Ce petit bonheur donc a duré que finalement, au bout du compte, que 9 mois. Et puis pour finir cette première page, à Lyon, c'est dans la même des veines. Hein, je rappelle que vous êtes peut-être au courant qu'il y a actuellement 21 familles qui représentent 91 personnes qui sont hébergées et qui occupent pour cela le Fort Saint-Laurent à Lyon dans le premier arrondissement. C'est sur la place Bellevue. Ce fort est devenu un centre d'hébergement géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris et qui a proposé l'association, donc a proposé de racheter le bâtiment à l'État pour 2,5 millions d'euros. Et bien, ils ont fait chou blanc. Oui. Et c'est un groupe hôtelier de luxe qui a remporté l'affaire avec 1 million de mieux à 3,5 millions d'euros. La préfecture donc a choisi, a fait son choix. Évacuation des familles, ça sera pour le 18 septembre.
C'est ça.
Des relogements ont été proposés et en hôtel pour d'autres. Donc c'est pas le Pérou, hein, c'est pas vraiment rien, c'est pas vraiment de la merde. Du luxe pour donc le fort. Et ben les offres avaient été lancées dès le début de cette année, donc de 2017.
Ouais, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel coûte beaucoup moins cher à la métropole et à la ville qu'un foyer avec des éducs. Voilà, un foyer avec éducs, c'est à peu près 200€ par jour, par tête, tandis qu'un hôtel, bah, c'est 60€ pour la nuit, et la journée, tu te démerdes, et il n'y a personne pour t'aider.
Voilà.
Donc voilà, et donc encore un hôtel de luxe qui va être construit sur un bâtiment public, qui aurait pu servir à autre chose. On ne rappelle pas l'hôtel Dieu, là, hein, qui va nous faire un bel hôtel pour riches, mm-hmm. En tout cas, une bonne galerie et marchande d'hôtels et compagnie, quoi.
C'est formidable, c'est pas loin de la plume noire.
Ouais.
Bon, enfin bon.
Ouais, je suis pas sûr que...
Oui. Qu'est-ce que c'est ?
Non.
On verra tout à l'heure. Donc on reparlera un petit peu tout à l'heure au Paris. J'ai un petit truc sur les mineurs isolés, mais du coup, on va enchaîner avec, avec une autre mauvaise nouvelle, du coup,
voilà,
ce matin.
Encore une fois, donc, toujours sur le thème des migrants qui se font malmener par l'État, c'était l'expulsion ce matin du bidonville qui était à Villeurbanne, à côté du périphérique. Donc, il y a eu une annonce du préfet qui a annoncé l'expulsion immédiate dans la journée d'hier ou avant-hier, je crois, du bidonville, donc qui s'est fait expulser ce matin. À partir de 8h du matin, à peu près, il y avait des snipers sur les toits à côté. Il y avait pas mal de camions de CRS, 50 camions de CRS qui encerclaient le camp. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup pour un camp où il y avait au départ 500 personnes, mais du coup beaucoup moins ce matin au moment de l'expulsion, parce qu'il y en a pas mal qui sont partis avant. J'imagine, en partie dans l'angoisse de se faire
une nouvelle fois expulsé, ouais.
par les flics, tout ça. Et donc c'était ça a vraiment été fait à la va-vite, quoi. Donc surtout on note que normalement il y avait une application obligatoire de la circulaire du 26 août 2012 qui prévoit normalement que les terrains squattés par des migrants fassent l'objet d'un diagnostic social et des propositions de relogement. Du coup, ce que la préfecture n'applique jamais, puisque aucun terrain occupé par des Roms ni par des migrants a fait l'objet de ce diagnostic à Lyon, en tout cas dans les précédentes années. Donc voilà, une fois qu'ils ont expulsé tout le monde du camp, ils ont les pelleteuses, les bulldozers, ils ont tout rasé. Donc voilà, alors évidemment, du coup, il n'y a pas eu spécialement de proposition de relogement, ou alors pour une très très petite partie. Et encore, c'était des foyers, enfin des trucs merdiques, quoi. Ils ont été reconduits au forum réfugiés à Lyon, qui sont déjà complètement débordés. Ils ont proposé à pas mal de personnes qui ont accepté de retourner en Roumanie, mais avec une aide ridicule.
Voilà. Sur l'aide de retour, hein, qui est proposée systématiquement.
C'est 150€ par adulte et 46€ par enfant, ce qui n'est même pas le prix d'un billet de train. Donc c'est vraiment n'importe quoi.
En sachant qu'ils reviendront sûrement.
Oui, voilà, c'est ça, ils vont sûrement revenir parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont être rapatriés sûrement de force dans une dizaine de jours. Et donc voilà, donc c'est quand même un petit peu disproportionné comme réaction parce que bon, là à ce stade-là, c'est plus du maintien de l'ordre quand il y a le double de flics qui débarquent par rapport aux gens qui à la base, surtout que c'est des personnes complètement démunies qui vivent sur ce bidonville depuis quand même déjà 2-3 ans, il me semble.
Ouais, puis c'est du gros harcèlement psychologique, parce qu'en fait, du coup, ces gens-là, du coup, sont expulsés systématiquement de camp en camp, de campement en campement, quoi. Donc, il y avait tous les campements qui étaient sur le bord du périphérique, qui avaient été vidés juste avant l'euro sur Lyon, là. Ensuite, ils s'étaient rabattus sur un autre endroit, ils étaient virés. Donc, à chaque fois, c'est pelleteuse, effectivement, des grosses tranchées ou des gros cailloux pour pas qu'ils se réinstallent dessus. Là, ils s'étaient installés là depuis quelques mois, ouais, il me semble, du coup, en plus, c'était un endroit qui était assez peu visible, en tout cas de l'extérieur, voilà, qui était assez bien masqué. C'était assez tranquille, quoi, du coup. Et il y avait eu un gros travail des associations, notamment l'association Classe, qui, du coup, essaye sur les bidonvilles de faire scolariser les enfants sur les écoles du secteur. Et donc là, moi, justement, j'avais vu sur un collectif hier une personne de ce collectif-là qui était satisfaite parce qu'ils avaient enfin réussi avec la mairie à mettre la pression et enfin à trouver des classes pour ces enfants-là. Donc c'était en cours, sauf que comme le campement a été évacué et qu'ils vont aller s'installer ailleurs, tout le travail est à refaire une nouvelle fois. Et ce sera sûrement le cas dans 3-4 mois, etc., 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 etc.
Voilà, et du coup, sachant aussi que sur le campement même, il y avait quand même pas mal de cas de maladie. Il me semble qu'il y avait un cas de tuberculose qui a été détecté et qui, du coup, ben, n'a jamais pu être soigné, quoi. Moi, j'ai vu qu'ils avaient des traitements, mais bon, enfin... Voilà, ça reste des migrants, donc forcément, les traitements que l'État leur accorde, c'est pas en majorité des médicaments, on va dire, et même quand c'en est, c'est jamais assez, puisqu'ils devraient avoir les mêmes droits que nous et pouvoir être hospitalisés, voir des médecins comme il le faut, mais bon, voilà, donc c'est un peu la chasse aux pauvres. Vu le nombre de CRS, c'était un petit peu de l'antiterrorisme, entre guillemets, de la part de l'État, quoi. Alors, truc un peu. Enfin, un peu aberrant quand même, quoi, parce que.
De toute façon, le but, c'est de dégoûter, enfin d'essayer. Enfin, la tactique de l'État, très clairement, c'est pas de du coup s'occuper de ces personnes-là, c'est de les dégoûter le plus possible pour les faire abandonner psychologiquement et qu'ils rentrent chez eux et chez elles. Voilà, donc on espère que ce ne sera pas le cas et qu'on arrivera, du coup, tous et toutes, à créer de la solidarité. Voilà, le problème, c'est qu'effectivement, quand il y a des gens qui sont hébergés, bah, ils sont virés pour faire des hôtels de luxe, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est quand même très compliqué. Moi, je vais enchaîner du coup avec une.
Je voulais rajouter simplement à propos du Fort Saint-Laurent que je n'ai pas dit, c'est que les enfants du fort là sont tous scolarisés.
Du coup, ouais, dans les voilà. Du coin et que.
Non, mais c'est important.
Contrairement à ce que dit tout le temps l'opinion publique ou etc. Bien au contraire, c'est des gens qui cherchent à s'intégrer par tous les moyens.
Oui, puis quand ils sont à l'école, c'est la fête.
Et du coup, juste rappeler aussi qu'il y a quand même la trêve hivernale. Et qui du coup n'est quand même pas toujours respectée en fait. Bon, je ne sais pas à quelle date elle commence, mais ça va jusqu'en
octobre.
31 octobre, voilà.
Jusqu'au
31
mars.
Ça va jusqu'au week-end de Pâques.
31 mars,
c'est ça, à peu près.
Et bon, voilà, donc vu que normalement c'est censé être établi, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la circulaire là du diagnostic social des terrains, donc du coup des gens qui sont dessus, tout ça pour qui sont censés être à peu près objectifs et évaluer si du coup les gens sont pas dans trop de mauvaises conditions, tout ça, bah, vu que ça a jamais été appliqué et que y a aucun diagnostic qui est fait. Bah, s'il y a des expulsions qui commencent à se faire maintenant avec le froid qu'il peut faire parfois la nuit et voilà, bon, on craint un petit peu pour la trêve hivernale. On va voir comment ça se passe parce qu'on n'a jamais eu sous Macron, mais à mon avis ça va pas être drôle, donc voilà.
On aborde un autre
un peu sur la même thématique, parce que du coup il va y avoir une mobilisation au mois d'octobre, donc c'est pas tout de suite, c'est dans un mois, mais du coup qui va être organisée par RESF, donc le réseau Éducation sans frontières, donc voilà, qui a sorti un petit explicatif sur la situation actuelle sur Lyon, sur les mineurs isolés étrangers. Donc voilà, je vous lis ça vite fait parce que du coup ça reprend un petit peu tout ce qu'on dit, notamment la responsabilité de l'État, de la métropole et de la ville de Lyon qui ne respectent pas les lois, mais qui du coup qui s'en fout carrément même, on peut le dire. Donc fuyant la guerre, les violences subies dans leur pays puis celles des parcours migratoires, des centaines d'enfants de jeunes étrangers arrivant en France sont laissés à l'abandon, exclus de la protection et de la scolarisation qui leur sont dues. À Lyon, à cette rentrée, ce sont 80 jeunes mineurs qui dorment dehors, privés d'école. Nombre de jeunes étrangers font leur rentrée la peur au ventre, car le préfet traque aussi ceux qui, à 18 ans, font leur demande de titre de séjour. Des lycéens, lycéennes et jeunes en formation ont reçu de la préfecture la fameuse obligation de quitter le territoire. D'autres, en attente d'une décision, craignent de voir leur situation basculer du jour au lendemain, de se retrouver aussi à la rue et pourchassés. Les départements, la métropole de Lyon, se partagent avec la police, les parquets et les tribunaux le soin de faire le tri entre les jeunes qui seront reconnus mineurs et les autres déclarés majeurs après un entretien suspicieux, un document jugé douteux ou les conclusions aléatoires d'une expertise osseuse. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Pour les entre guillemets heureux élus, trop souvent ne s'ensuit qu'un service minimum d'encadrement sans que les bilans obligatoires ne soient réalisés sur leur situation, leurs besoins en santé, en éducation notamment. Cette politique conduit à de véritables maltraitances, parquage des mineurs isolés dans les hôtels ou hébergements inadaptés à l'accueil d'enfants et de jeunes non scolarisation. Quant aux exclus de la prise en charge, ils sont condamnés à l'errance, harcelés et contraints de décamper de leurs abris de fortune lorsqu'ils ne sont pas victimes de violences policières. On y revient.
Voire pire.
Donc la demande, c'est assez de violences institutionnelles, assez de politiques xénophobes, assez de textes qui créent les sans-papiers. Nous exigeons en particulier la prise en charge de tous les jeunes isolés étrangers par la métropole ou le département, l'arrêt des poursuites judiciaires pour des questions d'âge et d'identité, la régularisation administrative des jeunes majeurs avec un titre pérenne, le respect du droit à la scolarisation et à la formation pour tous et toutes dans des structures qui leur permettent de réussir, l'arrêt des expulsions et la fermeture des centres de rétention administrative, les fameux CRA, ce qui est plutôt pas mal du coup comme revendication, hein. Des fois on dit qu'RSF peut être un peu mou dans certaines villes, là, je trouve quand même que ça va plutôt loin. La politique, entre guillemets, d'économie drastique, diminution de 20 milliards de budget de l'État en 2018, suppression massive de personnel, touche particulièrement les jeunes étrangers. Ainsi, des jeunes sont-ils laissés à la rue alors qu'on observe des places non occupées dans des foyers? L'État va-t-il se décharger des services sociaux au profit d'entreprises ou d'associations? Au-delà des jeunes étrangers, c'est toute la jeunesse, les couches populaires qui sont particulièrement touchées, menacées. Si le soutien apporté à ces jeunes afin d'assurer leur défense individuelle est plus que jamais indispensable, il ne peut véritablement aboutir sans un combat d'ensemble contre des lois et des textes qui limitent la liberté de circulation et d'installation, qui créent les sans-papiers, et contre l'ensemble de cette politique qui s'inscrit contre les acquis sociaux et les droits fondamentaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir, une énième, une nouvelle sur la politique migratoire de la France, donc qui va être sortie par le gouvernement Macron. Il y a des choses qui sont déjà passées dans d'autres villes. Ça, je crois que ça a déjà passé dans le Nord, alors à Lille, je ne sais pas de conneries, mais à Angers, c'est sûr. À savoir que donc, pour s'occuper des jeunes mineurs, plutôt que de dépenser que l'État dépense de l'argent, du coup, il y a des appels d'offres qui sont faits. Et à Angers, là, l'appel d'offres a été gagné assez récemment par une association entreprise de bénévolat. Ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y aura plus de professionnels en tant que tels qui iront s'occuper du coup de ces jeunes mineurs isolés, mais ça va être du coup du bénévolat. Donc ça veut dire comment se décharger du service social, enfin, comment l'État commence petit à petit à se décharger du service social et laisser ça au bénévolat et donc à faire des économies encore et encore là-dessus. On rappelle, hein, les économies, quand elles sont faites, c'est toujours sur les mêmes, hein, c'est sur les minorités les plus démunies.
Après, c'est aussi une tendance globale de toute façon de l'État de toujours essayer de... Enfin, en tout cas, principalement, la stratégie Macron, c'est d'essayer de liquider tout ce qui est fait par l'État. Enfin, c'est l'idée, on va dire, du libéralisme classique, de dire que ben, il faut enlever l'intervention de l'État au maximum. Donc, ça veut dire que les assos vont se mettre de plus en plus à faire le boulot de l'État. C'est ce qu'on fait déjà au quotidien, de toute façon.
Donc, il y aura plein de petites mobilisations qui vont se mettre. Donc, on rappelle le 18, là, lundi prochain, donc devant la métropole, par le collectif Agir Migrants. Au mois d'octobre, sûrement le 11 octobre, cette mobilisation organisée par ESF. Et l'idée ensuite, c'est de faire au mois de novembre une grosse mobilisation pour essayer de lier ensemble tous ces collectifs qui luttent, voilà, tout ça pour des majeurs, pour des mineurs, enfin pour tous les migrantes et les migrants, et essayer de faire quelque chose d'assez gros et de lier ça, pourquoi pas, aussi à la question du logement, parce qu'on sera effectivement pendant la trêve hivernale et qu'il y aura énormément de gens dehors et que du coup il y a de la place, notamment tous ces logements vides qu'on pourrait réquisitionner. Donc voilà, ça se travaille dans des collectifs pour qu'il y ait une grosse mobilisation au mois de novembre sur cette question-là. Et on sera parti. On participera à tout ça, bien évidemment. Partie prenante, voilà, cherchez le mot, merci.
Même si on est déjà à la base aussi, de toute façon.
On rappelle aussi que pour nous, voilà, sur cette question-là, en tout cas, on a investi depuis un petit moment, notamment sur des cours de langue, voilà.
Et aussi dans le collectif
migrants et les migrants, et le collectif migrant aussi, voilà.
Solidarité migrant. Voilà.
Du coup, on est pas mal un peu de partout, on essaye en tout cas sur ces questions-là.
Bah, je propose quand même, avec toutes ces dates de rendez-vous, de lutte et tout ça, de faire un petit. Peut-être oui, déjà, mais faire un petit truc sur l'aventure de la plume noire quand même, pour avertir un petit peu sur les rendez-vous, les heures, les lieux, etc.
Un samedi, si on s'ennuie. Et on ne s'ennuiera pas. Le fera pour que ce soit visible, en tout cas.
Samedi, non, on sera.
Ah oui, c'est vrai qu'on sera autour opérateur.
Alors. Tu vois, déjà, nécessité donc de faire un programme précis et, voilà, pour rappeler un peu à tout le monde ce qui se passe sur Lyon, sur la ville. À qui le tour maintenant? Qui y fait?
Je ne sais pas ce qui était plus ou moins prévu.
On a encore 10 minutes, peut-être un petit 12 minutes, allez.
Hein? De quoi, 12 minutes?
Non, mais on a encore un peu de temps, quoi, du coup.
Oui, on a un peu de temps,
Tu
veux
pas faire une deuxième page de lutte sociale?
Eh ben, vas-y, tu t'es parti, là, pour lire.
Non, j'étais pas spécialement parti, mais.
D'accord. Bon, bah, alors, si tu m'y invites, je vais le faire.
On va reprendre. Forcer la main, vraiment.
Bon, comme une vedette, c'est le mec qui vient.
C'est la vedette à lutte sociale?
La star. Donc, on va repartir sur des luttes sociales, oui, toujours donc, au mois d'août, avec Villefranche-du-Rouergue. Quel département? L'Aveyron, merci. Donc, avec une grève de McDo, hein, c'est...
Max Strike.
Ouais, enfin, je sais pas quoi leur donner comme nom. Une rouge. Donc, une grève McDo très tendue selon les journaux, hein, c'est ce qu'ils en disaient. En tout cas, en somme, sans moelleux, tel un big machin, là. La cause, c'est un licenciement arbitraire anti-CGT créé en décembre 2016. Le syndicat se prend attaque sur attaque de la part de la direction, jusque même au tribunal d'instance, donc de Rodez, pour un contentieux des élections professionnelles. Le verdict, c'est que la SAS SAS, hein, c'est une SAS, hein, ce restaurant, avec l'enseigne McDo, hein, bien sûr. C'est une société à action simplifiée, hein, pour tout vous dire, voilà. C'est pris une volée de bois vert, 1000 balles de dommages et intérêts pour l'UDCGT et 1500 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Si vous voulez aller regarder tout ça, vous serez fixé. C'est pas pour autant que tout va mieux, hein, dans le resto. Il y a 7, donc il et elle sont 7 cégétistes qui dénoncent, qui représentent quand même 50% du personnel, qui dénoncent le harcèlement, dont un salarié accusé de 1000 mots. Le 23 août, il y a eu une notification de licenciement à son encontre, à effet immédiat. Là, c'est la goutte qui a fait, monter la moutardonnée. Grève tout aussi immédiate, plainte à la gendarmerie, même pour diffamation. Bref, climat comme le menu. De merde. Revendication, réintégration du camarade, stop aux discriminations, conditions de travail améliorées, bien sûr. Salaire, ils exigent 13 euros de l'heure. Ticket restaurant, chèque vacances et l'arbre de Noël pour le climat social. Ça, j'ai un petit peu souri là-dessus, mais enfin bon, pourquoi pas. Tout ça, donc, renforcé par des actions, un climat, je dirais encore une fois bis, donc sans tendresse. La direction compte sur sa décision première. Alors, c'est amusant aussi, puisque Beauvais soutient les grévistes. Alors, Beauvais, qui était dans une période, enfin, un peu plus, quand il était plus jeune, il voulait démonter les McDo. Alors,
Les déboulonneurs.
Bon, enfin, non, pas les déboulonneurs, ça, c'est la publicité, ça, les déboulonneurs.
Ah, oui. Je confonds.
Voilà. Donc, il leur a amené son soutien aux grévistes. Et puis, la CFDT, des agents de maîtrise, là, c'est un peu moins marrant, qui exige le respect des non-grévistes, le respect de l'outil de travail et le respect des clients.
Tout ça à McDonald's.
La sainte CFDT. voilà. Et puis on va continuer parce que ça tourne. Hein, c'est pas le tout. Mais si vous avez autre chose, hein, vous m'interrompez et puis je vous laisse le micro. Hein. Donc Saint-Dizier, maintenant Haute-Marne. Là, j'ai un bel exemple de la politique 3P. Vous savez ce que c'est que la politique 3P ? C'est partenariat public-privé. Donc une clinique privée du groupe Courlancy qui déménage ses meubles pour intégrer l'hôpital public. Mutualisation, ont-ils dit. Les deux structures étant en difficulté financière, eh bien mon œil, puisque le groupe Courlancy construit à Reims, donc dans le même quartier, hein, une clinique la plus importante sur l'Hexagone, paraît-il. À terme, selon les personnels et l'information donnée, des activités à l'hôpital public pourraient s'évanouir carrément et se retrouver où, devinez. Or, cet établissement public date de 2009, donc tout à fait récent, on ne peut plus. La mutualisation qu'il disait, mon œil encore une fois, puisque les bruits courent, et même plus que ça, que déjà 17 postes seront supprimés à Saint-Dizier. Et puis à Nantes, maintenant, c'était donc en fin août, sont les cyclo-livreurs en grève. Alors ça a touché en fait plusieurs villes sur deux jours, le 27 et le 28. Ils et elles sont auto-entrepreneurs, hein, je le rappelle, très précaires. Leurs conditions de travail et surtout de rémunération leur posent problème avec de nouveaux contrats et sans concertation, qui imposent entre autres une concurrence entre livreurs et livreuses. Ce qui importe beaucoup, hein, des livreuses en fait. J'en ai vu, moi, il y en a peu, hein, quand même. Donc il y a eu quand même des piquets de grève devant des restaurants fast food et une incitation pour les timides à venir rejoindre la lutte. Je continue. À Paris, dans le deuxième arrondissement, c'est au centre des finances publiques des agents, pas du centre, hein, mais des agents du nettoyage de la société VDS qui sont en conflit depuis le mois d'avril. Alors la cause, c'est le licenciement injustifié d'un salarié et la baisse de salaire pour deux autres personnes. Assigné au prud'homme, la direction a daigné négocier en deux rencontres. Alors le licencié sera réintégré sur un autre chantier. rappelle aussi rappelle des arriérés de salaire pour les autres depuis le 1er janvier. Les trois salariés se sont désistés de leur action au prud'homme, finalement, au bout du compte. Ils ont eu, il faut le dire, le soutien de la CGT 75 Finance et le soutien de l'Union locale CGT de Paris. Alors quand même, il y a des points noirs, puisque ça a été rappelé d'ailleurs par la CGT, c'est que la direction tente la division des grévistes en payant les jours de grève à deux employés et refuse évidemment pour l'autre. Voilà. Alors il y a d'autres revendications également. Il y a la reprise de toutes les clauses de l'ancien contrat de travail, le remplacement des salariés absents, l'embauche de personnel, le paiement des jours de grève pour tous et toutes, le respect du code du travail et des conventions collectives. Alors VDS a profité évidemment, pour préciser comment ça s'est passé, puisque VDS a profité du changement de sous-traitant, ça se passe toujours comme ça, hein. C'est pas la première fois qu'on le voit, hein. Donc a profité du changement de sous-traitant, de contrat, donc du nettoyage, pour mettre en place sa popote personnelle, et c'est raté, voilà. Est-ce que je continue ? J'en ai. Hein. Ouais, une petite dernière, mais ça va être long. Non, mais je le ferai la semaine prochaine.
Moi, je veux bien.
Je vais me garder ça sous le coude.
Moi, je veux bien compléter un petit truc par rapport à McDo. En ce moment, il y a aussi pas mal de grèves aussi qui sont organisées par la FAO, donc la fédération. Je ne serais pas capable de dire en allemand, mais en tout cas, c'est
tout débrouille.
Voilà.
L'agroalimentaire, non ?
Non, c'est une organisation anarcho-syndicaliste allemande, la FAO.
Ah, mais la FAO ?
Eh oui, la FAO qui a organisé aussi une grève à McDonald's dernièrement. C'est pour dire que...
C'est une version de la CNT allemande.
C'est une version de la CNT allemande, oui, c'est ça, qui réutilise le chat aussi. Par rapport à ça, je voulais juste rajouter un truc, c'est par rapport à McDonald's, on entre dans le cas assez classique des entreprises les plus antisyndicales, comme McDonald's, justement, avec un système de sous-traitance, avec un petit chef qui est tout autant autonome, et ce qui permet de séparer les unités économiques, et qui permet aussi de dire, regardez, tel endroit est dans la merde financière, donc on doit virer les gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de boulot, généralement, la stratégie de McDonald's, c'est plutôt de fermer la boîte, de fermer la filiale plutôt que de donner des... Comment dire ? Ils font le calcul plutôt
droits,
de fermer...
De faire évoluer les droits favorables aux salariés.
Ils préfèrent fermer deux entreprises, deux McDo, plutôt que donner des droits à un syndicat qui leur permettrait de donner du pouvoir. Du coup, c'est tout un défi pour les syndicats, que ce soit la CGT, que ce soit Solidaire, ou que ce soit des syndicats un peu plus radicaux qu'en Allemagne. Et on est obligé d'appliquer des techniques qui sont vraiment dignes des heures sombres du syndicalisme.
Voilà, du coup on arrive à la fin de l'émission. Moi je rajouterai juste deux petites phrases, mais qu'on complétera surtout la semaine prochaine, par rapport à une nouvelle baisse des appels qui a été annoncée ce matin par notre cher Premier ministre Édouard Philippe.
Qui en mettrait bien quelques claques quand même.
Voilà, tout à fait. Et donc là ce sera quand même un plus gros truc, mais faudra voir dans quelle mesure ça se fera. Ça doit passer au Conseil des ministres.
Exactement,
la semaine prochaine, il me semble. Donc on reverra ça mercredi prochain, à la prochaine émission d'Idées Noires.
Voilà. Moins 50 à 60 euros sur les APL.
C'est ça. Et du coup, on va juste vous rappeler du coup les dates. Donc samedi 16 septembre, donc ce samedi 14h30 devant le consulat d'Italie. On mettra tout ça, c'est déjà sur notre page réseau social, etc. Vous pouvez trouver tout ça pour le lieu exact du consulat d'Italie.
Rappel de l'adresse, non ?
C'est ce que je disais, c'était marqué. Mais du coup, tu peux le dire, Léna.
5 rue du Général ou du Commandant
Forax.
Forax, d'accord, dans le 6e.
Petite info aussi, je pense qu'on n'ouvrira pas la permanence de fait.
Voilà. On mettra tout un petit truc là-dessus aussi. Le lundi 18, rassemblement du collectif Agir Migrants devant la métropole au 20 rue du Lac à 19h. Le jeudi 21, on en reparlera sûrement la semaine prochaine, mais du coup, journée de grève et de mobilisation et de manifestation contre la loi Travail 2. Et le jeudi 28, mais du coup, on reviendra aussi la semaine prochaine, un rassemblement en place de la Comédie, du coup, suite à un appel européen pour le droit à l'IVG. Voilà, on vous rappelle les permanences, donc celle qui n'aura pas lieu ce samedi, mais normalement le samedi 15h-19h et le mercredi 17h-19h. Et si vous voulez en savoir plus, que du coup, je voulais le dire tout à l'heure pendant la petite page, du coup, ce qui s'est passé à la manif, vous voulez savoir un peu plus sur notre position, un petit peu sur nos stratégies syndicales. On a sorti une brochure que vous pourrez trouver sur le net et qui est encore disponible à la plume noire, qui s'appelle Les enjeux de la lutte syndicale, avec aussi une motion fédérale à l'intérieur. C'est quelle est notre position sur les syndicats, ce qui pourra peut-être vous aider à comprendre notre position, notamment lors des manifestations.
Voilà, et si vous êtes intéressé aussi pour agir en tant que agir ou comment dire avoir des des analyses, des réflexions, agir sur des questions de syndicalisme libertaire, ouais, sur des questions de formation. On a une commission qui est ouverte à participation sur le syndicalisme libertaire.
On organisera sûrement une petite, un petit truc assez, assez rapidement pour représenter tout ça, que ce soit à la radio ou en direct à la Plume Noire, voilà, pour pouvoir déblayer un peu tout ça, vous réexpliquer tout ça.
Mais on va avoir besoin de syndicalisme.
Et d'accord. Voilà, du coup, bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine, toujours sur les ondes.
C'est sûr, à mercredi prochain. Ciao, ciao.
Salut. Salut.